France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Ion Ion était un grand héros qui a donné son nom à tous les Grecs qu'on appelait les Ioniens, une tribu grecque très nombreuse et fameuse, installée en Asie mineure sur la côte turque, sur d'innombrables îles de la mer Égée et en Grèce même, dans la région d'Athènes. Ion Ion, grand héros fondateur, a eu une histoire rocambolesque, en fait pas très sérieuse, pleine de surprises que nous avons commencé à raconter la semaine dernière. Nous avons été guidés par une pièce de théâtre étonnante, une tragédie. Elle est d'Euripide, le poète athénien qui a ému tant de fois le public avec ses tragédies au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui savait aussi mêler pas mal d'humour à ses sombres histoires. Cette tragédie finit bien, comme c'est souvent le cas dans le théâtre antique, mais l'horreur, une mère voulant assassiner son fils, un fils voulant mettre à mort sa mère, a été frôlée de très près, plusieurs fois.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Il faut dire que ces personnages emportés et prêts à se massacrer ne savaient pas qu'ils étaient elle la mère et lui le fils. Tout cela à cause de la lâcheté et du mensonge d'un grand dieu, censé dire la vérité aux mortels, Apollon, le dieu de Delphes. Il n'osait pas avouer qu'il était le père furtif de cet enfant né d'une mortelle. On ne peut pas se fier aux dieux. Mais alors, à qui ? Cette pièce de théâtre s'appelle Ion, du nom de son jeune héros. En fait, il ne faudrait pas appeler ce héros Ion. C'est un enfant trouvé, sans nom. Et il ne sera doté d'un nom qu'assez tard dans la pièce, quand Apollon lui donnera, à tort, un père. En fait, un faux père. Avant, il n'a pas de nom. Il est un esclave du dieu Apollon et on ne le nomme jamais. On dira donc simplement le jeune homme. Cette pièce qui tourne autour d'un enfant caché, sans père ni mère, sans nom au début, ressemble à un vaudeville, à une comédie de famille un peu ridicule. Apollon, en visite à Athènes, a eu une histoire avec la fille du roi, la jeune princesse Créusa. Il l'a forcée à s'unir à lui dans une grotte sur les pentes de l'Acropole. La jeune fille en a honte. Elle est enceinte, accouche en secret d'un garçon et dépose le nouveau-né dans la grotte où le dieu Apollon l'a connue. Elle pense qu'ainsi elle voue le pauvre petit être à la mort. Elle se dit qu'il sera mangé par des bêtes. Mais le dieu ne laisse pas faire. Un fils de dieu ne peut pas disparaître ainsi. Apollon envoie son jeune frère Hermès, le dieu discret des missions tordues, recueillir le petit avec ordre de le déposer la nuit incognito devant son temple, le temple d'Apollon à Delphes. Quand elle prend son travail le matin, la prêtresse du dieu, la Pythie, voit cet enfant abandonné dans une corbeille. Elle l'adopte, l'élève. L'enfant grandit et occupe des fonctions de serviteur du dieu, dont il ne sait pas que c'est son père. Les spectateurs de la pièce ont été mis au courant de toute cette histoire par le dieu Hermès en personne. Ils savent parfaitement qui est le père et qui est la mère de cet orphelin qui est en réalité d'origine plus que prestigieuse, fils d'Apollon et d'une princesse athénienne. Mais aucun des personnages de la pièce n'est au courant. Le jeune homme, qui joue le rôle central, est pour tous un enfant trouvé, d'origine inconnue. Depuis cette triste histoire avec Apollon, la princesse athénienne Créusa s'est mariée. Son père, Érecté, le roi d'Athènes, l'a mariée à un dénommé Xoutos, nom qui veut dire le brillant, le fauve, le roux. Cet homme est un étranger, mais il a fortement contribué au salut d'Athènes, la ville natale de Créusa, lors d'une guerre. Le roi, qui n'a pas de fils, voit ainsi la possibilité d'une lignée masculine. Tant pis si c'est grâce à un étranger, mais il a été utile. Confier la royauté d'Athènes et sa fille un non-athénien, ça fait tache. La famille de Créouza, son père Érecté, et les Athéniens en général, étaient très fiers d'être des autochtones, c'est-à-dire des gens natifs de leur propre terre. L'ancêtre de la famille, un dénommé Érictonios, était en effet né de la terre athénienne. La race des Athéniens se pensait donc comme pure, comme libre de tout élément étranger. Mais est-ce possible? Qu'est-ce que ça vaut, une telle origine si pure? Est-ce que ça tient la route? Euripide s'amuse à examiner la question. On aura des surprises. Le couple Créouza et Xoutos n'a pas d'enfant. Il fait un pèlerinage à Delphes pour demander au dieu Apollon comment venir à bout de cette stérilité. Créouza a une autre question à poser au dieu. Elle veut savoir ce qu'il est advenu de l'enfant qu'elle a eu d'Apollon et qu'elle a dû abandonner. Ce bébé a été recueilli juste après sa naissance par Apollon. C'est l'enfant qui sera plus tard appelé Ion, qui ignore qui est son père et qui est sa mère. Le dieu, trop fier, n'a jamais voulu reconnaître qu'il était le père. Le jeune homme, orphelin, son nom, a pris son travail un matin. Il nettoie le temple et voit arriver une femme royale, dont il ne sait pas quelle est sa mère. Il est impressionné par son élégance et par sa tristesse. La reine pleure en voyant le lieu sacré qui appartient au dieu qui a abusé d'elle, qui lui a fait un enfant qu'elle a dû abandonner. Le jeune homme, qui est cet enfant, mais cela personne ne le sait, la questionne sur l'histoire d'Athènes, sur le mythe qui veut que le premier roi d'Athènes, Érictonios, soit né de la terre. La reine, à son tour, l'interroge, lui demande qui il est. Il lui dit qu'il ignore tout de son origine.
Mais toi, qui donc es-tu? Heureuse la mère qui te mit au monde.
On m'appelle l'esclave du dieu. Je le suis, en effet.
Une cité t'a voué à son culte? Ou si l'on t'a vendu?
Je ne sais rien, sinon que l'on me nomme l'enfant de l'Oxias.
À mon tour maintenant de te plaindre.
C'est vrai. Je ne connais ni père ni mère.
Vis-tu dans ce temple ou bien as-tu un toit?
La maison du dieu est la mienne. J'y dors où le sommeil me prend.
Es-tu venu ici enfant, adolescent?
Nouveau-né, disent ceux qui semblent le savoir.
Quelque delphienne t'aura donné son lait?
Jamais je n'ai connu le sein. Celle qui m'a nourri...
Pauvre enfant, qui était-ce? Je souffre et je rencontre la souffrance.
La prophétesse d'Apollon, que je tiens pour ma mère.
Et jusqu'à l'âge d'homme, de quoi as-tu vécu?
L'autel me nourrissait et l'incessant afflux des étrangers.
Que je plains qui qu'elle soit, celle qui t'enfanta.
Je suis peut-être né d'un acte violent dont souffrit une femme.
Créouza, la reine d'Athènes, est venue à Delphes parce que elle et son mari, le roi Xoutos, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Le couple veut demander au dieu un remède. En fait, Créouza a aussi une toute autre demande à faire au dieu. Qu'est-il arrivé au petit enfant qu'elle a eu de lui et qu'elle a abandonné dans une grotte sur l'Acropole? Est-il mort? Le dieu l'a-t-il préservé et gardé pour lui? Elle ne peut pas s'en ouvrir au jeune homme. Mais percevant sa sympathie, lui qui souffre d'être orphelin, elle lui demande une faveur. Elle s'engage dans un mensonge et prétend qu'elle intervient pour une amie qui dit avoir couché avec Apollon et qui voudrait savoir ce qu'il est advenu de son enfant. Peut-être Apollon l'élève-t-il en secret? Créouza voudrait interroger le dieu pour cette prétendue amie. Et elle veut que la prêtresse d'Apollon, celle qui est la mère adoptive du jeune homme, lui apporte une réponse. Le jeune homme est horrifié par ce que lui dit Créouza. Apollon se serait rendu coupable d'une vraie vilenie si ce que raconte cet ami est vrai. Quant à lui faire avouer par un oracle qu'il a conservé l'enfant près de lui, c'est hors de question.
Comment interroger le dieu sur ce qu'il veut tenir caché?
Mais il siège au trépied pour répondre à toute la Grèce.
Cet acte est sa honte. Ne cherche pas à le faire éclater.
Et pendant ce temps, sa victime souffre.
Nul ne se trouvera qui formule pour toi la question que tu veux. Révéler coupable dans sa propre demeure. Mais Apollon serait en droit de s'en venger sur ton porte-parole. Renonce à ton projet. On ne prie pas un dieu de se condamner en personne. Et notre imprudence ne serait pas moindre si nous prétendions, contre leur volonté, par le sang des victimes ou le vol des oiseaux, faire dire aux dieux ce qu'ils veulent taire.
Le jeune homme est très choqué, Créossa aussi. Elle s'en prend directement à son ancien amant forcé, Apollon.
Ô Phoïbos, à présent, aussi bien que jadis, tu te montres injuste envers l'absente au nom de qui je parle ici. Ton fils que tu devais sauver, tu l'as laissé mourir. Et quand la mère t'interroge, ô révélateur, tu lui refuses une réponse alors qu'elle voudrait, s'il n'est plus, l'honorer d'un tombeau, s'il vit encore, voir enfin son visage. Je dois donc renoncer, puisque le Dieu lui-même m'empêche de savoir ce que je veux.
Delphes n'est donc pas un lieu où la vérité peut être dite et entendue. Le Dieu a décidé qu'elle resterait cachée. La défiance règne.
Claire Nancy, helléniste.
Ce qui semble évident, c'est qu'en tout cas Euripide s'est servi des personnages femmes pour construire sa critique de la cité. Et alors il s'est servi des femmes de plusieurs manières. D'une part, on peut remarquer que toutes les femmes d'Euripide sont des femmes qui sont des femmes extrêmement lucides, qui parlent, qui ne sont pas seulement, comme dirait Périclès, des femmes dont on parle, mais c'est des femmes qui sont capables de parler, qui sont capables de tenir un discours, et qui ont un discours extrêmement lucide et vigilant, c'est-à-dire qu'elles ne se bornent pas simplement d'accomplir la fonction qu'elle a leur, ou de protester contre cette fonction, mais elles disent ce qu'elles ont à dire sur les discours que les hommes tiennent, sur la manière dont ils se comportent, sur la manière dont ils conduisent, par exemple, l'histoire.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe nous parle de l'histoire bizarre du jeune Ion, mise en scène par Euripide.
Apollon, pour préserver son secret, va se lancer dans une grande opération de mensonge. Il n'hésite pas à faire mentir l'oracle de Delphes. Arrive le mari de Créoussa, Xoutos, le roi d'Athènes. Il veut demander à Apollon comment faire cesser la stérilité du couple qu'il forme avec Créoussa. Pour un roi, c'est essentiel d'avoir un enfant mâle. Xoutos est tout content. Le jour a été déclaré favorable à la consultation du dieu. Xoutos aura enfin sa réponse. Guilleret, il entre dans le temple et demande à sa femme Créoussa de sacrifier partout où elle peut sur les autels d'Apollon pour que le dieu règle positivement la question de sa postérité. Créoussa approuve. Mais garde sa méfiance. L'autorité du divin est ébranlée. Elle a pris un sacré coup.
Je le ferai, oui, certes. Que l'Oxias consente maintenant, enfin, à réparer ses anciens torts. Non que jamais il soit pour moi un ami véritable, mais si peu qu'il m'offre, je l'accepterai. Il est Dieu.
Tout va s'accélérer. Xouthos entre dans le temple et se fait révéler par la Pythie assise sur son trépied, à savoir par Apollon, qu'en fait, il n'était pas sans enfant. Il est père, sans le savoir. Le dieu lui dit que le premier jeune homme qu'il rencontrera en sortant de la consultation est son fils, qu'il a eu autrefois sans le savoir. Xouthos sort, tombe sur un jeune homme et se rue sur lui pour l'embrasser. Il a enfin retrouvé son fils. Le jeune homme le repousse, interloqué. C'est évidemment le fils secret d'Apollon. Le dieu a tout simplement décidé de lui donner un autre père, un faux père.
Sois heureux, mon fils. Oui, j'ai le droit de commencer ainsi.
Je suis heureux. Si tu t'abstiens de déraisonner, nous irons fort bien tous les deux.
Donne-moi ta main que je la baise, ton corps que je l'embrasse.
Es-tu dans ton bon sens, ou un dieu te fait-il délirer ?
Le jeune homme n'a aucune envie de se faire câliner par cet inconnu. Le ton monte. Le jeune homme menace son prétendu père de son arc. Xouthos insiste. C'est bien Apollon qui l'a dit. Le jeune est sceptique. Il sait qu'on peut entendre mal comprendre ce que dit le dieu.
J'ai entendu la parole du dieu.
Un mot obscur t'aura trompé.
Crois-tu que je sois sourd ?
Mais que t'a dit Phoïbos ?
Que celui qui viendrait sur ma route...
En quelle rencontre ?
Comme je sortirais du temple...
Était promis à quoi ?
Serait mon fils.
Né de toi ou simplement offert ?
Offert, mais né de moi.
Et c'est moi le premier qui vient croiser ta route ?
Nul autre que toi, mon fils.
Mais se pose la question de la mère. Xouthos n'a aucune idée et il a oublié de le demander au dieu. Son prétendu fils veut néanmoins savoir.
Attends, qui est la mère qui de toi m'a conçu ?
Je ne sais.
Et Phoïbos ne l'a pas nommée ?
J'étais si heureux que je n'ai rien demandé de plus.
Suis-je donc né de la terre ?
Le sol ne produit pas d'enfant.
Comment alors serais-je ton fils ?
Je l'ignore et m'en remets au dieu.
Naître de la terre, ça n'existe pas selon Xouthos, ça ne veut rien dire. Quelle ironie ! Naître de la terre, c'est le mythe fondateur d'Athènes. Le mythe de l'autochtonie, le mythe d'une famille royale qui se prétend née du sol athénien par son premier ancêtre, le fabuleux Erichthonios. Creusa est issue en ligne directe après deux générations de cette naissance terrienne. Elle est très fière d'être autochtone, d'être la fille d'Erecté, lui-même fils d'Erichthonios, le premier roi d'Athènes, né de terre, de Gaïa. Xouthos, l'étranger, n'a pas cette chance. Or voilà qu'Apollon déclare que l'enfant qu'il a fait secrètement à Creusa, cet enfant qui, par sa mère, appartient à la lignée issue de la terre et qui est le seul héritier mâle de cette lignée, est en fait le fils d'un étranger. Ça va se corser. Le jeune homme finit par se laisser convaincre par Xouthos. Il se considère désormais comme son fils naturel. Pour la mère, on verra. Xouthos avoue qu'il est venu dans sa jeunesse à Delphes pour participer à des fêtes très actives et mouvementées en l'honneur du dieu de l'ivresse, Dionysos, des rêves partis rituels, et qu'à ce moment-là, il a pu, sans le savoir, devenir père. Il ne saurait plus dire avec qui. Pour lui, ce n'est pas si grave. Il a un fils. Il exulte. Xouthos demande à son nouveau fils de venir le suivre chez lui à Athènes tout de suite. De profiter de son statut d'enfant de roi. Il sera riche et heureux.
Quitte à présent le temple et ta vie d'exilé. Viens à Athènes, c'est le vœu de ton père. Son sceptre illustre t'y attend et toutes ses richesses. Ainsi il te sera désormais épargné de souffrir d'une double disgrâce, basse naissance et pauvreté. Tu seras à la fois grand seigneur et fort riche.
Le bonheur donc, on est loin du mythe, de ses invraisemblances, ses cruautés, avec ces nobles Athéniens qui se croient issus de leur terre. Mais le prétendu fils est sombre, inquiet. Il va arriver à Athènes comme fils bâtard du roi étranger Kexoutos, et il sera à jamais un étranger, alors qu'en fait il est, sans le savoir, le fils de la reine, de Créoussa, l'autochtone.
Les choses changent de visage, selon qu'elles sont loin de nous ou qu'on les voit de près. Je rends grâce à l'événement qui me fit en toi retrouver un père. Mais s'il me faut te dire ce qui me donne à réfléchir, le peuple d'Athènes, issu, dit-on, du sol, ne doit rien à nul autre. Je vais tomber, avec la double tâche d'être bâtard et de père étranger. Flétri de ce nom, si je reste obscur, on me nommera rien, fils de rien. Que je veuille au contraire me hausser à la barre, aspirer à être quelqu'un, les incapables me haïront. Toute excellence est importune.
Le fils qu'Apollon vient d'attribuer à Xoutos craint surtout la haine de Créoussa. Elle, la femme noble, de lignée athénienne, était venue à Delphes trouver le moyen d'avoir un fils avec son mari. Or, non seulement elle n'en aura pas, mais son mari, une pièce rapportée, va lui imposer le sien, qui est totalement étranger. Il n'a pas tort. Cette haine de Créoussa va se déchaîner. Xoutos ne voit pas le problème. Il répond bêtement, comme un vieux sage, rempli de sagesse molle, qui s'est résigné au changement imprévu qu'impose la vie.
Ne parle pas comme ça. Apprends à être heureux.
Un peu de mensonge devrait suffire. On ne dira pas tout de suite à Créoussa que ce jeune homme est le fils de Xoutos. Il sera présenté comme un hôte. Ce n'est qu'avec le temps que Créoussa pourra s'habituer à le considérer comme le futur roi d'Athènes. Tout sera faux, mensonge, illusion. Tout le monde sera trompé. Xoutos, Créoussa, le faux fils, le dieu, qui est le premier menteur, y travaille. Et pour le moment, il s'agit quand même de célébrer l'immense bonheur qui est arrivé à Xoutos, qui se découvre père.
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain sans partir, sans un geste, et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. C'est méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire
seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire sera un homme, mon fils.
Quand les dieux rôdaient sur la terre,
tu seras un homme, mon fils.
Pierre Judet de la Combe.
Pierre Judet de la Combe raconte comment Apollon va être obligé d'avouer qu'il est papa.
Xoutos veut célébrer l'apparition de son fils par une grande cérémonie, une grande fête, un grand banquet où l'on célébrera le bonheur. Tout le problème pour Xoutos sera de ne pas dire à sa femme Créoussa qu'il célèbre ainsi la naissance passée de son fils. Il dira que Ion est un visiteur qui lui est cher, mais ce mensonge ne va pas tenir. Les femmes amies de Créoussa, qui font le cœur de la pièce et qui ont assisté à tous ces événements, sont pleines d'angoisse. Pour ces femmes, il est exclu qu'un étranger entre dans la ville et exerce le pouvoir. Seul peut régner sur Athènes un homme qui soit de la famille d'Érectée. Ces femmes se demandent si elles doivent révéler à leur reine, Créoussa, ce que Xoutos a appris, tant cela lui fera mal. Elles y sont contraintes. La reine est trop insistante. Créoussa éclate de colère et de douleur. Elle se décide à enfin révéler à ses amis ce qu'Apollon lui a fait subir. Cette maternité sans lendemain. Apollon lui a donné un fils pour l'en priver immédiatement. Et il en donne un autre à Xoutos. Ce dieu est ignoble. Elle le clame.
Apollon, la cithare aux sept cordes où vibrent les cornes de bêtes des prés que l'on a tuées, tu sais y faire chanter les beaux hymnes des muses. C'est toi que je cite, ô fils de Leto, devant le soleil qui nous voit. Tu vins vers moi dans l'éclat d'or de tes cheveux. Le pli de ma robe était plein de crocus, reflet du soleil cueilli pour ma guirlande. Tu m'as saisi par mes poignets de fille, tu m'as jeté par terre dans la grotte quand je criais « Ma mère, à moi, un dieu et mon amant !» Tu m'emportas sans pitié pour faire de moi ce que voulait Cypris. Et je mets au monde, moi l'infortuné, l'enfant né de toi. Redoutant ma mère, je l'ai porté vers ce lit même, où par une étreinte cruelle, tu pris cruellement la pauvre fille. Hélas, hélas, il a péri dévoré par les oiseaux, mon fils, le tien aussi. Et toi, pendant ce temps, tu joues de la cithare, tu chantes des péans.
Une seule décision est possible, supprimer ce jeune Ion qui prend la place de l'enfant qu'elle a perdu. L'occasion est toute trouvée. Xoutos organise une grande fête en l'honneur de ce jeune homme. Un peu de poison, habilement versé dans sa coupe, réglera le problème. Créoussa dispose de ce poison. Son père Érectée lui a transmis un bijou qu'elle porte toujours avec elle. Il le tient d'Athéna. Ce bijou contient deux gouttes du sang de l'affreuse Gorgone qu'Athéna a tuée. L'une de ces gouttes est un remède, l'autre un poison foudroyant. Il suffira de verser la bonne goutte, le poison, dans la coupe du jeune Ion. Créoussa confie le bijou à un vieux serviteur toujours fidèle. Il se rendra à la fête organisée par Xoutos et opérera. Créoussa attend le résultat, pas longtemps. Un messager arrive, raconte comment on peut s'y attendre. Ce qui s'est passé n'est pas du tout ce qui était prévu par la reine. La fête, dit ce messager, était somptueuse. Tout le peuple de Delphes était invité. Elle avait lieu dans une tente magnifique, de 1000 pieds carrés, construite par Ion. Puisant dans le trésor du dieu, Ion avait tendu des tissus fabuleux qui montraient le monde et la gloire d'Athènes, la ville qu'il allait rejoindre.
Comme toiture, il déploie un écran de tissus. Offrande d'un fils de Zeus. Héraclès, en effet, en fit présent aux dieux sur le butin des Amazones. On y voit des tissus tout brodés de figures. Ouranos rassemblant les astres dans le cercle du ciel. Hélios entraînant ses chevaux vers le point où les flammes se meurent. La nuit au voile noir poussant son char qui n'a que deux chevaux de joue et les étoiles escortant la déesse. La Pléiade suit son chemin au milieu de l'éther, avec Orion à l'épée levée, dominé par l'ours qui, de sa queue d'or, tourne autour du pôle. Le disque de la lune y est haut lancé dans le ciel, coupant le monde en deux. On y voit aussi les Hyades, signe très sûr pour les marins, et l'aurore porteuse de lumière qui fait fuir les étoiles. Sur les côtés, il déploya d'autres étoffes venues des pays barbares. On y voyait de beaux vaisseaux affrontant les navires grecs, des centaures à demi-chevaux, des cavaliers poursuivant des cerfs, chassant de sauvages lions. Il mit près de l'entrée Kécrops, au milieu de ses filles, déroulant ses anneaux de serpent. C'est une offrande athénienne.
La fête commence. On verse des libations en hommage aux dieux. Soudain, un vol de colombes entre dans la tente et boit le vin versé. La colombe, qui boit le vin que Ion a répandu depuis sa coupe, a un comportement étrange.
Toutes, sans en souffrir, burent la libation, mais une se posa où le fils de Xoutos avait vidé sa coupe et goûta du vin. Aussitôt, son corps emplumé se mit à trembler, à se tordre. Elle jeta un cri déchirant, inconnu des augures, puis une plainte. L'assemblée stupéfaite la vit se débattre, palpiter et mourir enfin, ses pattes écarlates détendues.
Ion comprend qu'on a voulu l'assassiner. Il saisit le vieux serviteur qui lui avait tendu sa coupe et lui fait avouer que l'ordre de le tuer venait de Créoussa. Furieux, il la cherche, décidé à la mettre à mort. Il la trouve. Elle s'est blottie contre l'autel d'Apollon. C'est un endroit sacré qui devrait être un refuge inviolable contre la violence qu'elle mérite. Mais Ion est prêt à transgresser les lois de la religion et à punir. Heureusement, la pitié surgit. Elle raconte comment elle l'a adopté. Elle lui montre la corbeille où il était couché tout petit devant le temple d'Apollon. Créoussa est évidemment stupéfaite à la vue de cette corbeille. Elle se rue vers Ion, bouleversée et pleine d'amour. Elle quitte le refuge sacré qu'était pour elle l'autel d'Apollon. Ion, comme c'était le cas avec Soutos, ne comprend rien et demande qu'on arrête cette folle.
Ah, je quitte cet hôtel et dussé-je en mourir.
Saisissez-la. Un dieu l'égare et me la livre. Elle a bondi loin de l'hôtel et des statues. Liez ses bras.
Égorgez-moi si vous voulez. Je ne me dessaisirai plus de toi, de ce berceau, ni de ce qui l'enferme.
Quelle audace! La voilà qui veut s'emparer de moi.
Tu comprends mal. Celle qui t'est le plus chère te retrouve pour t'aimer.
Toi, m'aimer? Celle qui me tuait sournoisement?
Tu es mon fils, ce qu'une mère a de plus cher au monde.
Créoussa étonne Ion en lui décrivant très précisément tout ce que contient la corbeille. Il doit donc admettre qu'elle est sa mère. Enfin, il n'est plus orphelin, ni de père ni de mère. Il souhaite que son père Xoutos arrive pour que toute la famille soit réunie. Créoussa doit alors lui avouer qu'il est né d'un autre père, que Xoutos n'est pas son père. Elle désigne Apollon. Ion ne la croit pas. Tant de filles fautives ont accusé un dieu. Mais arrive la grande scène finale. Athéna surgit en haut du temple et en quelques mots, elle clôt toute l'affaire. Elle confirme que oui, Apollon est bien le père de Ion. Il voulait le cacher, mais là, il est contraint, bien malgré lui, d'avouer. Mais Athéna ordonne de n'en rien dire à Xoutos, qui doit toujours se croire le père de Ion. Il ne faut pas le priver de son illusion. Et il faut bénir Apollon, qui, dit-elle, a manœuvré depuis le début pour cette fin heureuse. Ion va rentrer à Athènes. Il va devenir roi. C'est donc un fils de Créoussa, un membre de la lignée autochtone, né de la terre athénienne et non un étranger, qui règnera. Créoussa, fille d'Érectée, peut-être contente. Amen. Happy end. Vraiment, l'autochtonie, la pureté terrienne, originelle des Athéniens, de leur roi, n'a été sauvée que par des entourloupes, des mensonges, une séduction abusive par un dieu impatient, une naissance cachée, l'enlèvement secret d'un bébé porté à Delphes, un futur roi d'Athènes élevé par la pitié, un mensonge éhonté du dieu des oracles à un humain en mal de paternité. Les risques extrêmes encourus par un fils que veut tuer une mère empoisonneuse et par une mère qu'un fils veut égorger malgré les règles sacrées. Un faux papa, ce Xoutos qui se croira toujours père. Tout finit bien, Le mythe athénien de l'autochtonie, de la pureté de l'origine d'un peuple est respecté et rétabli. Athènes peut être fière, mais au prix d'innombrables mensonges et trahisons. Peut-être que ça donne encore à réfléchir. La semaine prochaine, nous serons à Athènes et nous entendrons de plus près ces grands seigneurs qui se prétendent issus de la terre. Euripide nous ouvrira encore une fois les oreilles.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. Bonne journée sur France Inter.